spirituel. Chaque semaine, avec Amy, Thomas et Laurent.
Et ça démarre un peu vite ce soir. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Max FM pour une émission Enquête spirituelle ce soir jusque 21h. Comment ça va, Amy?
Bah ça va bien, et toi, Laurent?
Ça va super bien, heureux de te retrouver à l'antenne.
Bah oui, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir, je suppose que les auditeurs vont être également ravis de te retrouver à l'antenne. On retrouvera bien évidemment Thomas aussi, bien évidemment, à l'antenne. Il sera également en conférence fin du mois, mais on vous en dira plus tout à l'heure à la fin de l'émission. Et ce soir, Amy, on reçoit qui?
On reçoit Sylvie Ouellet depuis le Canada.
Qui sera en direct donc depuis le Québec. Eh bien, on va la prendre tout de suite. Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que vous allez bien?
Oui, je vais très bien. Vous aussi?
Ah, ça va parfaitement bien. Merci d'être avec nous ce soir depuis le Québec, je suppose.
Oui, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci de m'inviter.
Bah merci à vous d'avoir accepté. On vous a découvert avec votre livre Bienvenue sur Terre. Donc moi, forcément, ça me parlait directement. Donc les auditeurs ont compris la semaine dernière que je viens juste d'être maman. Donc votre livre, j'ai découvert avec mon petit congé maternité. J'avais un peu de temps pour lire. Donc j'ai découvert Bienvenue sur Terre.
Eh bien, merci d'être avec nous ce soir. Alors, quel temps il fait là-bas au Canada?
Aujourd'hui, il fait une belle journée, un peu fraîche, pour vous peut-être froide, mais c'est une belle journée d'hiver.
Très bien. Nous, on a des bonnes températures en ce moment, ça fait que ça change par rapport au Québec, où il doit faire des moins 10, moins 20 peut-être.
Oui, c'est ça, ça tourne autour de ça aujourd'hui, oui. Et chez vous, il fait combien?
Oh, ben nous, c'est plus 10 là en ce moment.
Oh, waouh!
C'est l'hiver pourtant.
Oui. Pas le même ici.
Oui, bien sûr. Alors, ce soir, le sujet de l'émission, mais il y en aura plusieurs parce qu'on va un peu parler de vous. Tout d'abord, vous présenter qui vous êtes, comment en êtes venu à ce que vous faites maintenant, c'est-à-dire que vous écrivez des livres, mais bien évidemment, vous êtes ouverte aussi à la spiritualité. Mais justement, la première grande question, c'est comment en êtes-vous arrivé là? Quel est un peu votre parcours?
C'est une bonne grande question. Je vais tenter de synthétiser. En fait, j'étais comme la plupart des gens. Moi, j'étais une personne qui faisait métro, boulot, dodo sans me poser trop de grandes questions existentielles. Mais j'étais quand même intéressée par plusieurs sujets. Sauf tout ce qui se passait après la mort. C'était pas quelque chose que j'avais abordé à l'époque encore. Et j'ai commencé à méditer pour essayer d'être mieux dans ma vie parce que je traversais une crise existentielle, à me questionner sur qu'est-ce que j'allais faire. Moi, je suis notaire de formation et à l'époque, j'entends beaucoup de retour sur la voix, désolée. Donc, à l'époque, c'est ça, je me questionnais sur qu'est-ce que j'allais faire au niveau professionnel parce que je n'étais plus bien dans cette profession-là. J'ai donc décidé de commencer à méditer pour essayer de me calmer intérieurement et de trouver des réponses à mon côté professionnel surtout et non pas existentiel, parce qu'à l'époque, je ne croyais pas que j'allais trouver des réponses existentielles dans les méditations. Mm-hmm. Et j'ai eu une grande surprise, celle de découvrir que des âmes étaient capables de venir s'adresser à moi pendant les méditations. Et ça, pour moi, c'était vraiment une grande révélation parce que j'avais toujours cru jusque-là que je n'étais pas dotée d'aucune capacité de communication, ni même intuitive. J'étais vraiment persuadée que moi, on m'avait oubliée de ce côté-là. Et le fait de commencer à communiquer avec les âmes, ça m'a propulsée évidemment dans une quête de compréhension. Comme je suis une personne très rationnelle, hein, pour avoir choisi la profession de notaire, c'est que j'avais besoin de ce côté-là rationnel, de ce côté sécurisant de la preuve, mm-hmm. Ce que je n'avais pas du tout quand j'ai commencé à communiquer avec l'invisible. On le sait, hein, les preuves, elles ne sont pas tangibles.
C'est sûr.
Alors, ça m'a amenée dans une quête de compréhension. J'ai voulu explorer ce monde-là pour comprendre d'abord qu'est-ce qui m'arrivait. Et ensuite, pour comprendre pourquoi les hommes s'adressaient à moi, parce que ça aussi, c'était une grande question auxquelles j'avais pas de réponse à l'époque. J'avais une conception très naïve de la vie et de la mort. On mourait et on flottait sur un petit nuage jusqu'à la fin de nos jours, dans ce que je comprenais. Mm-hmm. Mais là, le fait qu'on s'adresse à moi pour avoir de l'aide, mais ça défaisait toute cette conception-là. Alors, j'ai chercher des réponses à travers des livres, à travers des formations, à travers aussi les communications que j'ai reçues, parce qu'évidemment, il y en a eu plusieurs qui ont été très pertinentes et très utiles dans la compréhension là, de ce qui se passe de l'autre côté.
D'accord.
D'accord. Beaucoup de choses sont arrivées, bien évidemment. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour un peu ouvrir à tout ça? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier dans votre vie qui vous a un peu ouvert l'esprit, entre guillemets, et ne plus être trop matérialiste?
Oui, tout à fait. Je pense que ça fait partie, évidemment, de la clé ou de ce qui a été le moteur pour me propulser dans cette direction-là. J'ai traversé une période où j'étais très mal dans ma peau, où je ne savais vraiment plus quelle était ma direction. Je pense que j'avais un mal de vivre important à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que j'ai commencé à méditer, parce que quand je regardais les gens qui méditaient, ils m'apparaissaient bien, ils m'apparaissaient sereins. Et c'est un peu ce que je voulais retrouver à l'intérieur de moi, cette paix-là, parce que c'est pas un état d'être que je connaissais beaucoup. J'ai toujours été un peu tourmentée dans ma relation avec la vie. Et cette période-là, à la mi-trentaine, a été, je dirais, un cap important où j'ai été chercher des outils pour justement trouver cette paix-là face à la vie.
D'accord. Et les outils en question, justement, parce que vous avez certainement un don, enfin si on peut appeler ça un don, parce qu'on le voit avec tous nos invités, de clairvoyance, médium, clairaudience.
Mm-hmm. Mais en fait, pour moi, vous savez, je ne pourrais pas qualifier ça de don. Pour moi, c'est une capacité qui se développe. Et j'en suis la preuve vivante, parce que j'étais convaincue que jusqu'à l'âge d'environ 35 ans, que moi, j'avais aucune capacité de communication, que bon, il me manquait des morceaux, là, c'était ma conception des choses. Mais je pense que quand on trouve le moyen qui nous permet d'accéder à cette forme de communication-là, on est capable, tout le monde est capable de la développer. Je ne crois pas avoir quelque chose de plus ou de moins que la grande majorité des gens, simplement que à travers la méditation, j'ai découvert un moyen de communiquer. Donc pour moi, ce n'est pas un don, mais c'est une capacité qui se développe. Et la méditation a été un élément clé dans ce développement-là de mon côté. Le yoga a été un autre élément clé. Vous savez, j'ai découvert à travers le yoga que c'était tout à fait normal que je prétende au fait que je n'entendais pas ou que je n'étais pas en mesure de communiquer, puisque je n'écoutais même pas mon corps. J'étais une personne très, très dure avec moi, avec les exigences que j'avais, et je m'arrêtais seulement quand je n'étais plus capable d'avancer ou quand mon corps était très malade. Donc, il n'y avait pas grand-chose qui pouvait m'arrêter à part vraiment une maladie importante. Donc, le yoga m'a ramené au centre de mon cœur et de mon corps pour que je puisse enfin entendre les messages que mon corps avait à me livrer. Mais évidemment, ça aussi, ça m'a permis de développer la communication, parce que pour moi, la communication avec l'au-delà, qu'on parle avec un défunt, avec un guide, avec un être spirituel, pour moi, c'est le même canal. Ce sont juste des vibrations différentes auxquelles on a accès, mais c'est le même canal de communication. Et le corps fait partie intégrante de cette communication-là, il faut apprendre à entrer en relation avec notre corps, avec soi, pour être capable d'accéder à ce type de communication-là. Et c'est ce qui faisait défaut chez moi.
D'accord. Et ensuite, vous avez commencé à écrire des livres, je suppose. Vous en avez écrit plusieurs. Hein. Je vois 1, 2, 3, 4, 5 livres. Il y a un livre d'ailleurs que Amy a lu, qui est vraiment très bien, d'ailleurs, qui est Bienvenue sur Terre. Et ce livre-là, bah, ça va certainement parler à beaucoup de gens ce soir, parce que c'est un peu le thème de l'émission, en tout cas ce qu'on a choisi, c'est-à-dire l'incarnation. Comment ça se passe? Comment on vient sur Terre, justement? Est-ce qu'on choisit de venir sur Terre? On vient sans s'en rendre compte? Expliquez-nous un petit peu.
Le voyage de l'incarnation j'aurais pas la prétention de répondre à cette grande question-là ce soir, mais simplement d'apporter des éléments d'information qui correspondent aux connaissances que j'ai à l'heure actuelle, aux communications que j'ai pu avoir avec des âmes qui s'incarnent, avec mes guides aussi par rapport à ce sujet-là. Mais évidemment, c'est une très, très grande question et on pourrait en parler très longtemps. Mais ce que j'en conçois aujourd'hui, c'est que l'âme se prépare à ce grand voyage-là avant de venir sur Terre. Je vois l'incarnation à l'image d'un programme de formation qu'on pourrait suivre. Par exemple, bon, moi, j'ai une formation de notaire. Je suis allée à l'université pour obtenir un diplôme. Alors, avant d'aller à l'université, il a d'abord fallu que je détermine en quoi je voulais étudier. Quels étaient mes objectifs d'apprentissage? Hein? C'était la question de base auquel il fallait que je réponde avant de pouvoir poursuivre plus loin. Donc l'âme, si on fait le parallèle avant de s'incarner, elle va elle aussi se poser cette question-là. Qu'est-ce qu'elle désire apprendre? Où est-ce qu'elle est rendue dans son parcours? Qu'est-ce qui lui reste à aller chercher comme outil? Et à partir de ces réponses-là, elle va construire le véhicule dont elle aura besoin et elle va choisir l'environnement dans lequel elle va avoir besoin de naître. Donc, à mon avis, selon ce que j'en comprends aujourd'hui, il n'y a rien d'hasardeux dans le fait de naître. On est exactement là où on doit naître en fonction des objectifs d'apprentissage que l'on s'est fixés. La famille, le pays, l'environnement religieux, l'environnement économique, familial, politique, social, correspond exactement à l'école de la vie dont on a besoin pour se former, pour grandir et pour apprendre.
Très bien. Avant d'aller plus loin, on va faire une petite respiration musicale. On se retrouve dans quelques petits instants pour la suite de cette émission Enquête spirituelle. À tout de suite.
Enquête spirituelle. Découvrez votre spiritualité.
De retour dans cette émission Enquête spirituelle ce soir avec notre invité depuis le Canada, c'est-à-dire Sylvie Ouellet, qui est toujours en direct avec nous. Vous êtes toujours là ? Alors, on parlait donc du livre, de Bienvenue sur Terre, qui parle de l'incarnation sur Terre. Vous disiez justement qu'on choisit des choses par rapport à tout ça. Est-ce que, vous allez certainement me dire que oui, mais vous allez expliquer peut-être un petit peu, est-ce qu'on choisit notre famille, est-ce qu'on choisit nos parents avant de venir?
Oui, le choix des parents est tout à fait conscient. Parce que ça fait partie de l'école dont on a besoin. Les parents sont la base même, sont le fondement ce fondement-là qui va nous mener vers les apprentissages dont on a besoin. Alors, il n'y a pas de hasard de ce côté-là. Parfois, certaines âmes vont faire ce choix-là beaucoup en présence, pas parfois, c'est-à-dire on fait toujours ce choix-là en présence de nos guides qui connaissent aussi nos besoins et qui savent bien nous diriger vers les apprentissages dont on a besoin. Mais certaines âmes vont être plus conscientes que d'autres en fonction de leur cheminement spirituel, de ce choix-là, des implications de ce choix-là. Donc, plus on est une âme évoluée, si on peut dire ainsi, plus le choix est fait de manière consciente par rapport aux impacts de ces parents-là.
D'accord. C'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on pense, enfin, ou qu'on ne pense pas avant de venir sur Terre. Il y a plein de choses qui se font. Comment faites-vous par rapport à vos informations que vous avez? Donc, pour écrire vos livres, est-ce que c'est vos guides qui vous aident? Est-ce que c'est vous par rapport à votre inspiration et vos expériences, justement vos communications? Comment vous faites?
La plupart des livres, sauf le dernier qui a été une expérience totalement différente, mais les quatre premiers sont venus de la même façon, c'est-à-dire que avant même de commencer à écrire, je reçois le titre qui va mijoter, je dirais, pendant quelques mois à l'intérieur de moi. Je sais que ça se prépare, je sens que ça se prépare, l'écriture, mais je n'ai encore aucune idée du contenu comme tel, mis à part le titre. Par exemple, Bienvenue sur Terre, quand j'ai reçu ce titre-là, j'étais totalement emballée parce que dans les rencontres que je faisais, soit en conférence, en atelier ou en consultation, il y avait souvent des parents qui me disaient « mais on n'a pas d'outils pour pouvoir accompagner ces âmes-là qui s'incarnent ». Alors, quand j'ai reçu le titre, pour moi, c'était un élan de joie totale parce que je me disais « ah, ça va être un petit livre, tout petit, pour les parents qui sont pressés, qui n'ont pas le temps de lire et qui, bon, va être un outil majoritairement pour eux ». Et quand le temps est venu d'écrire, je m'installe là et c'est vraiment par télépathie que je reçois les informations des guides. Je suis toujours étonnée à la fin d'un livre de voir la tournure parce qu'au départ, ça correspond jamais à l'idée que j'en avais. Et donc, Bienvenue sur Terre, j'ai commencé à écrire, je me suis installée avec le premier chapitre pour écrire. Et j'avais dans la tête une petite plaquette, donc un petit livre tout petit, peut-être une centaine de pages maximum pour dire l'essentiel. Et là, je voyais les pages arriver, l'écriture et tout ça, ça n'en finissait plus. Et là, je disais à mes guides, oui, mais on est qu'au chapitre 1. Donc, je voyais l'ampleur du texte et j'ai compris que je devais tout simplement laisser aller et que c'était mon idée de départ, la plaquette qui était peut-être pas bien alignée, mais que pour le reste, le contenu s'installe de lui-même, je dirais. C'est très facile pour moi d'écrire. Pas parce que j'ai un talent particulier, je dirais parce que j'ai des guides très volubiles. Dès que je m'installe pour écrire devant l'ordinateur, le contenu coule de source et souvent, j'apprends au fur et à mesure que j'écris. Hein. Il y a des informations que même dans Bienvenue sur Terre, à un moment donné, je me souviens d'un chapitre, entre autres, que j'arrivais difficilement à écrire parce que c'était de la nouvelle information et j'étais en résistance beaucoup à me dire, ben, je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train d'écrire, là, vous me demandez d'écrire quelque chose à la limite que je n'ai pas testé et que je n'ai pas validé. Mais au fur et à mesure que j'écris, on m'envoie toujours aussi de belles confirmations, de belles validations dans la pratique. Parce que quand j'écris un livre, je vous assure, je l'ai mis en pratique. On m'a demandé de le mettre en pratique, ce livre-là.
D'accord. Et ensuite, vous avez écrit « J'aimerais tant te parler, l'ABC de la communication entre le ciel et la terre ». Et en gros, vous dites que tout le monde peut communiquer avec le ciel, enfin, si vu de la terre, bien évidemment, et qu'il y a de la communication qui passe. Comment peut-on faire ou comment ça se passe de votre côté?
C'est une bonne question. Je crois pas qu'il y ait une seule méthode. Donc, je peux parler de celle que je connais, mais je suis persuadée qu'il y en a plein d'autres. Parce que je compare la communication avec le ciel, avec les énergies subtiles. Exactement comme la communication entre les humains, il n'y a pas seulement qu'une façon d'y arriver. Et chacun de nous met sa couleur dans la communication qu'on a avec les autres. Hein. Donc, la communication subtile, c'est exactement la même chose. On peut y arriver avec différents moyens. Personnellement, au départ, ça se passait pratiquement toujours dans un espace de méditation. J'arrivais à communiquer avec des défunts ou avec mes guides dans cet espace-là uniquement au départ. Mais bon, quand j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte que j'étais capable aussi d'être dans un autre état qu'un état méditatif et de recevoir des informations. Donc, je peux m'asseoir à l'avant de mon clavier et écrire et recevoir en même temps. Mm-hmm. Et bon, c'est sûr que je comparais la communication subtile à l'entraînement physique. Pour moi, ça se développe, mais c'est pas quelque chose qu'on acquiert de façon définitive. Exactement comme la forme physique, ça se développe, mais on ne l'acquiert pas de façon définitive. Pour pouvoir être en forme, il faut faire quelque chose pour maintenir la forme. Le jour où on commence à un programme d'entraînement, on n'est pas nécessairement en forme. On le devient à suivre, ce programme-là. Et le jour où on arrête le programme d'entraînement, on ne demeure plus en forme. La forme commence déjà à se perdre. Alors, la communication subtile, c'est la même chose. Pour pouvoir en bénéficier, il faut instaurer dans notre quotidien un programme d'entraînement. C'est quelque chose qui ne s'acquiert pas automatiquement et qui ne reste pas, surtout parce qu'on l'a développé une fois. C'est pas quelque chose qu'on peut prétendre dire je l'ai jusqu'à la fin de mes jours. C'est vraiment un entraînement. Pour moi, ça passe par des temps de silence réguliers, des temps d'observation de soi, des temps d'arrêt. Donc, c'est probablement la partie la plus difficile dans la vie très mouvementée que nous avons tous. Hein? La vie va très vite. Et les exigences font en sorte que le temps libre ou le temps d'arrêt est pas nécessairement très grand. Mais je pense qu'il faut, si on veut développer ce type de communication-là, il faut prendre du temps pour soi en priorité dans notre vie. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. C'est là où on va trouver tout ce qu'on cherche, la paix, l'amour, le bonheur. C'est dans ces espaces-là qu'on va pouvoir les cultiver et qu'on va pouvoir avoir accès par le fait même à tout le potentiel qui existe dans la communication subtile.
Qu'il y a tellement de choses à communiquer aussi et à faire. Est-ce que quand on leur parle, ils nous entendent à chaque fois? Ou alors est-ce qu'il faut se concentrer d'une façon bien spécifique? Est-ce qu'il y a de l'écoute de l'autre côté?
Ou bien oui, c'est une bonne question. Oui, il y a de l'écoute de l'autre côté, mais ce que j'en comprends, c'est que ça fonctionne, la communication avec l'autre côté, avec le ciel, appelons-le comme on veut, fonctionne exactement comme la communication ici. On est en train de se parler, là, présentement, Laurent. Mm-hmm. Vous m'écoutez, alors vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Mais si vous étiez occupé à faire autre chose, je pourrais vous parler et vous entendriez pas ce que je suis en train de vous dire, ou à tout le moins, peut-être saisiriez pas les nuances qu'il y a dans ce que je suis en train de vous dire. C'est exactement la même chose. C'est pas parce qu'on s'adresse à une âme, l'âme d'un défunt, qu'elle est nécessairement attentive au moment où on s'adresse à elle. Les âmes ne sont pas là à attendre qu'on les appelle. Elles sont occupées. Elles ont des choses à faire, à régler. Elles ont leur propre cheminement. Alors, au moment où on s'adresse à elles, ça veut pas dire qu'elles sont disponibles. Moi, je me plais souvent à dire qu'elles ont un répondeur, une boîte vocale, une boîte courriel dans laquelle on peut laisser un message. Et elles vont nous rejoindre lorsque le moment sera opportun aussi pour elles. Donc, qui dit communication dit deux parties. Il ne faut pas l'oublier. Je vois beaucoup de gens en consultation ou en conférence qui se remettent en cause par rapport à leur capacité de communication en se disant « mais moi, je sens pas que j'ai eu une réponse ». Ben, il faut aller voir pourquoi il n'y a pas de réponse. On n'est pas nécessairement responsable à 100% du fait qu'il n'y ait pas de réponse. Je pense que, comme dans toute communication, on a notre 50% de part de responsabilité qui nous appartient, c'est-à-dire l'entraînement nécessaire pour entendre ce type de réponse-là. Ce que j'en comprends, Laurent, par rapport à notre capacité d'entendre les messages, c'est qu'on a souvent de la difficulté à entendre nos petites voix à nous. La voix du mental, la voix de l'âme, hein, c'est quelque chose qu'on a de la difficulté à démêler à l'intérieur de nous. Alors, imaginez ajouter la voix de quelqu'un d'autre à travers tout ce babillage-là intérieur si on n'est pas habitué de faire silence et de démêler, départager les voix qui nous parlent. Mais souvent, on a l'impression qu'on n'a pas de réponse, mais la problématique, c'est pas qu'on n'a pas de réponse, c'est qu'on n'est juste pas capable de reconnaître la réponse qui vient de nous arriver. Donc, on a notre part de responsabilité, notre 50% qui fait qu'on doit s'entraîner pour y arriver. Mais l'autre 50% ne nous appartient pas, appartient à l'âme à qui on s'adresse. Il faut accepter à l'avance que c'est possible qu'elle ne soit pas disponible pour nous répondre. Et c'est même possible qu'elle ne puisse pas nous répondre dépendamment où elle est et dans quel état elle se trouve. Exactement comme en ce moment, si quelqu'un, par exemple, un proche tentait de me joindre, mais je ne suis pas disponible. J'ai fermé le téléphone, j'ai fermé la porte parce que je suis en train de vous parler. Donc, voyez-vous, il faut comprendre que ça fonctionne exactement comme ici. Et souvent, quand il n'y a pas de réponse, ça ne veut pas dire que c'est mauvais signe. Ça veut simplement dire que peut-être que l'âme à qui on s'adresse n'est pas en mesure de nous répondre dans le moment présent.
D'accord. Et les âmes, justement, à qui on s'adresse, est-ce que c'est forcément des proches ou alors on peut s'adresser à n'importe qui?
La réponse que je peux vous donner, que je connais à ce sujet-là, puisque ça fonctionne exactement comme la communication entre vous et moi, et évidemment, on peut s'adresser à n'importe qui. Comme dans la communication avec les humains, on n'est pas obligé d'attendre de connaître une personne pour pouvoir s'adresser à elle. Maintenant, la difficulté majeure, je dirais, dans la communication avec les âmes, c'est de pouvoir reconnaître la réponse lorsque c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Lorsqu'on s'adresse à une âme qu'on connaît, on a des repères pour reconnaître la réponse et s'assurer que c'est bel et bien elle qui nous envoie le message. Alors que quand c'est une personne inconnue, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, moi, je peux vous témoigner que j'ai eu de nombreuses communications avec des âmes que je n'avais jamais rencontrées sur la Terre. Et il y a tellement une intensité dans la communication, une clarté lorsqu'on est bien centré, qu'il n'y a aucun doute qui se présente à l'esprit à ce moment-là sur l'identité de l'interlocuteur. On le sait qu'il s'adresse à nous et on comprend le message qu'il veut nous envoyer.
D'accord. Avant d'aller plus loin, Sylvie, on va marquer encore une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques petites minutes pour la suite de cette émission Enquête spirituelle. À tout de suite.
Merci.
Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent.
De retour dans cette émission Enquête spirituelle de ce soir jusque 21h avec notre invitée Sylvie Ouellet. Mais d'ailleurs là-bas c'est encore la journée, non, il me semble?
Oui, Il est actuellement 14h39 chez nous.
Bon, vous avez de la chance, car nous, on va bientôt aller dormir après. Alors, on a des...
Je ne sais pas, moi, j'aurais tendance à dire, c'est peut-être vous qui en avez de la chance pour si on a hâte d'aller dormir.
Ah oui, ça c'est sûr. Si on est fatigué, on est en avance par rapport à vous. Il faut profiter. Mais il faut attendre la fin de l'émission, bien évidemment. Il faut écouter jusqu'au bout. On parlait de l'incarnation tout à l'heure et les petits auditeurs nous demandaient sur le chat par rapport à la réincarnation. Est-ce que vous déjà vous y croyez et est-ce que on se réincarne donc plusieurs fois? Est-ce qu'on fait plusieurs vies?
Pour moi, la réincarnation va de soi puisque c'est à mon avis une des explications la plus logique qui vient donner un sens à la vie. Lorsqu'on regarde la vie en se disant qu'on a une seule incarnation, le sentiment de justice et d'équité est difficile à trouver dans un cas comme celui-là, parce qu'on se demande tous, mais pourquoi il y en a qui ont la possibilité de vivre jusqu'à 105 ans et qu'il y en a qui auront juste la possibilité de vivre une heure, deux jours, six mois. Donc, ça devient difficile d'expliquer le sens à la vie dans une perspective d'une seule incarnation. Lorsqu'on regarde la vie sous un cycle d'incarnation, alors là, il y a un sens profond qui s'installe. On peut le comparer, comme je le disais tout à l'heure, à un programme de formation qui va s'échelonner sur plusieurs incarnations. Et chacune de ces incarnations-là peut représenter, bon, un cours, par exemple, du programme de formation. Donc, vous voyez où je veux en venir. Tout ça se tient dans un esprit d'avancement, d'ouverture de conscience. Le cycle des incarnations est basé sur un objectif que nous avons tous, c'est d'apprendre l'amour inconditionnel, d'apprendre à être heureux, d'apprendre à être bien avec soi et à vibrer avec ce qui nous entoure. Donc ça, c'est la mission de vie, je dirais, globale pour chaque être humain. Mais pour y parvenir 365 jours par année, 24 heures sur 24, on s'entend que dans une seule incarnation, ça pourrait être difficile à atteindre, hein? C'est la somme de tous les voyages qu'on va faire sur la Terre qui nous permettent d'arriver petit peu à cet état de bien-être-là qui va demeurer bon, en bout de ligne l'objectif principal à atteindre.
D'accord.
Donc, on se réincarne pour apprendre de vie en vie à se découvrir, à découvrir le potentiel qu'on porte à l'intérieur de nous. On a tellement de capacités et de possibilités. Vous savez, la science arrive à dire qu'on exploite seulement 10% de ce qu'on porte. Alors, imaginez de pouvoir... On a de la difficulté à comprendre qu'il reste 90% du bagage qu'on n'aurait pas exploité encore et qu'on a, on aurait en plus une seule vie pour y arriver. Je pense que c'est... C'est là où quand on regarde ça avec un recul, une vision un petit peu plus large, le sens à l'incarnation nous permet de voir que chacune de ces incarnations-là est comme un morceau de casse-tête qui nous permet d'avancer, d'apprendre, de découvrir sur soi et de voir d'autres facettes d'une même expérience, parce qu'on peut revenir pour voir différentes facettes d'une même expérience. Dans une vie, on pourra être un bourreau et dans l'autre vie, nous serons la victime, non pas pour être punis de la vie qu'on a fait en bourreau, mais pour voir une autre facette de cet amour-là, pour voir qu'est-ce que ça fait d'être une victime, qu'est-ce que ça fait de subir un bourreau, dans le but d'apprendre, d'apprendre quoi le potentiel qu'on porte et l'amour surtout qu'on porte à l'intérieur de soi.
D'accord. Et est-ce qu'on se réincarne tout le temps, ou il y a un moment où on arrête de se réincarner parce qu'on, pas qu'on a tout appris, mais qu'on n'a plus besoin de venir sur Terre?
Mais je crois, si j'en reviens encore au programme de formation, lorsque le programme de formation est terminé, on change d'école.
Ouais.
Je vois la même chose dans notre histoire d'incarnation. La Terre nous sert à apprendre qui nous sommes, ce que nous portons à l'intérieur de nous. Une fois qu'on en a la maîtrise, viendra un choix en tant qu'âme de poursuivre les incarnations, mais là, dans le but d'aider d'autres ici sur Terre. Donc, il y en a des maîtres incarnés à l'heure actuelle sur la Terre qui nous servent d'exemple à suivre. Ou la deuxième partie du choix, c'est-à-dire de continuer d'apprendre, mais sur d'autres plans, parce qu'il existe la Terre étant une école, il en existe d'autres. Alors, c'est un monde qui est totalement vaste, où je pense qu'on n'arrête jamais d'apprendre, de grandir et de s'épanouir. Un peu comme la vie est en constant mouvement. La vie bouge par essence même. Alors, puisque nous sommes vivants, nous sommes des êtres vivants, et la portion de nous qui survit à la mort du corps physique demeure vivante et va continuer dans ces mêmes éléments-là à bouger, à apprendre, à avancer.
D'accord, on apprend tout le temps en fait, et je crois qu'on va apprendre même après notre vie terrestre. Ça continue, ça continue et ça continue.
Oui, tout à fait.
Alors, vous avez écrit aussi beaucoup d'autres livres, mais on n'aura pas le temps de parler de tous. Enfin, on va essayer en tout cas. Le livre suivant, pour les prendre dans l'ordre, c'était « Ils nous parlent, entendons-nous ». Là, c'est plutôt dans le sens contraire, c'est plutôt dans le sens « eux ont des choses à nous dire ». Est-ce qu'on arrive à les écouter, surtout, est-ce qu'on arrive à les entendre ? Comment ça se passe pour capter les signaux que eux nous envoient ?
Oui, c'est une bonne question aussi. Je pense que pour être à l'écoute des autres, il faut d'abord être à l'écoute de soi. J'en ai glissé un mot tout à l'heure. Pour entendre les signes que les défunts nous envoient, il faut développer à l'intérieur de soi notre capacité d'écoute. Il faut donc se donner du temps, des temps de silence pour d'abord départager les petites voix qui sont à l'intérieur de nous.
Mm-hmm.
Et souvent, en comprenant aussi la manière dont les défunts peuvent nous parler, ça permet de reconnaître ce langage-là beaucoup plus facilement. Évidemment, les défunts n'ont plus de corps. Alors, les messages qu'ils vont nous envoyer n'ont plus rien de... ou pratiquement plus rien de terrestre. Hein? Ce ne sera pas... à moins d'être clairvoyant ou clairaudient, la plupart du temps, les messages vont être beaucoup plus par signe, par symbole, que par message direct comme entre vous et moi à l'heure actuelle. Donc, en reconnaissant les moyens utilisés par les défunts, c'est ce que je traite dans ce livre-là, mais la communication peut s'établir. Entre autres, les défunts vont souvent nous parler soit par signe de jour ou par signe de nuit. Les signes de jour sont évidemment ce que moi j'appelle les beaux miracles de la vie qui peuvent arriver dans certaines circonstances. Je vous raconte un événement que j'ai vécu rapidement pour que vous compreniez ce que je veux dire par un signe de jour.
D'accord.
Ma grand-mère est décédée et une bonne journée, je suis en voiture et je me mets tout à coup, tout bonnement, à penser à elle. Alors, me vient l'idée d'écouter une chanson que je lui murmurais à l'oreille dans les derniers jours de sa vie. Je fais jouer cette chanson-là et juste au moment où le crescendo de la chanson survient, il est apparu dans le ciel, je ne sais d'où, des centaines d'oiseaux. Mais vraiment, là, il y en avait, c'était spectaculaire. Et ces centaines d'oiseaux-là surgissaient devant un immense coucher de soleil, un magnifique coucher de soleil. Et ma grand-mère, les deux choses qu'elle aimait le plus, à part voyager lorsqu'elle était en vie, c'était les couchers de soleil et les oiseaux. Alors, voyez-vous, moi, j'étais dans la voiture avec le crescendo de la chanson que je lui chantais au moment où elle l'a quitté. Et les oiseaux apparaissent soudainement comme ça. Ils sont venus de nulle part et ils sont repartis de nulle part à la fin du crescendo. C'est totalement spectaculaire ce qui s'est passé. Mais en même temps, vous auriez été dans la voiture avec moi, vous auriez probablement pas remarqué tout ça puisque le signe m'était adressé à moi et qu'il est venu me faire vibrer moi à l'intérieur. Donc, moi, j'ai perçu ce signe-là comme un message de ma grand-mère. J'étais justement en train de lui parler pendant que la chanson se déroulait pour lui dire que je l'aimais et qu'elle me manquait. Et j'ai compris à travers la vibration qui s'est installée quand les oiseaux sont arrivés qu'elle me faisait juste me répondre, dire « Moi aussi, je suis là ». Donc, ce genre de signe-là, où on a l'impression que tout est orchestré par ce qu'on appelle le gars des vues, là, comme si c'était un film, c'est tellement beau, tellement grand, et la synchronicité arrive tellement pile. Ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais qui sont souvent des signes utilisés par les défunts pour s'adresser à nous. Sauf que le mental étant tellement fort à l'intérieur de nous qu'on va tout de suite remettre en question ce genre de signe-là et dire « ben voyons donc, c'est pas ça certainement, c'est mon imagination, c'est parce que je m'ennuyais ou c'est parce que je souhaitais recevoir un signe ». Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a des études qui sont faites sur ces phénomènes-là et entre autres, il y a une étude qui a été menée aux États-Unis où on s'est rendu compte que plus de 90% des gens qui reçoivent un signe comme celui-là déclarent l'avoir reçu au moment où ils s'en attendaient le moins. Et ça, je trouve ça fascinant parce que ça démontre que c'est pas notre imagination qui est en train de construire ce signe-là. Le signe arrive au moment où on s'en attend le moins. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a prémédité ou qu'on a tellement désiré que ça finit par se manifester. C'est vraiment quelque chose de spontané. Et j'ai observé la même chose dans toutes les communications que j'ai reçues. Je n'ai jamais cherché, moi, à entrer en communication avec un défunt. C'est toujours le défunt qui arrive de manière spontanée sans que je m'y attende. Et ça donne toujours des communications qui sont très puissantes parce que le mental n'est pas présent à ce moment-là. Hein. Il n'y a rien de calculé, il n'y a rien de prévu, il n'y a rien de prémédité. Tout arrive dans le moment présent comme ça doit se présenter.
D'accord. On a reçu entre-temps une petite question par SMS. Est-ce que, enfin pour un peu revenir brièvement, bien évidemment, sur la réincarnation, est-ce qu'il arrive parfois que des personnes qu'on a connues se réincarnent pendant notre vie à nous? Est-ce que c'est possible?
Oui, tout à fait. Il faut évidemment que ça corresponde. Lorsqu'on choisit de se réincarner dans une même famille ou dans un même environnement où on a déjà vécu, il faut comprendre que c'est parce que ce terrain familial-là correspond à un nouvel apprentissage. Donc, on ne vient pas revivre la même histoire qu'on a déjà vécue dans la vie précédente, mais on vient apprendre de nouvelles choses, mais toujours dans le même environnement, parce que celui-là nous plaisait et parce que celui-là, c'est celui-là dont on a besoin.
D'accord. Donc c'est très simple, en fait, quand on y réfléchit. Mais oui. Les auditeurs, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est possible de se réincarner dans une même vie, en tout cas dans un même laps de temps. Mais comme vous dites, c'est peut-être pas forcément non plus dans la même famille. Ça peut être à l'autre bout du monde pour vivre quelque chose qu'on n'a pas vécu ou quelqu'un qui est peut-être parti trop tôt. En tout cas, je ne pense pas que ça doit être dans la même famille. En tout cas, on les retrouvera de toute façon quand nous, on passera de l'autre côté. Ça, c'est sûr.
Oui, on les retrouvera, mais évidemment pas. On s'en fait une idée très humaine des retrouvailles qu'on aura de l'autre côté. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est encore plus grandiose comme retrouvailles parce qu'on ne retrouve pas la personnalité. On retrouve l'âme, Donc, ça fait des retrouvailles qui sont vraiment beaucoup plus puissantes et intenses au niveau de la vibration. Pour bien expliquer ce que je suis en train de dire, c'est, je vous ai parlé de ma grand-mère. Mm-hmm. Évidemment, j'espère la retrouver parce que je l'aimais beaucoup. Mais ce n'est pas ma grand-mère, la personnalité de ma grand-mère que je vais retrouver de l'autre côté, c'est son âme. Et ce n'est pas moi qui va ma personnalité humaine qui va la retrouver, mais bien mon âme. Alors imaginez l'ampleur des retrouvailles de l'autre côté. Et c'est pour ça que ceux qui ont fait une expérience de mort imminente, donc qui sont morts pendant quelques secondes, quelques minutes, mm-hmm. et qui ont rencontré un être cher de l'autre côté, qui ont eu un contact d'âme à âme avec un être cher, reviennent complètement transformés parce que c'est d'une intensité incroyable. Ça ne peut pas se comparer à une rencontre d'humain à humain.
D'accord. Merci d'avoir répondu à cette question. Alors, brièvement, il nous reste 3 petites minutes. C'était justement, c'est un bon enchaînement. C'était le sujet de votre dernier livre, Après la mort, qu'est-ce qui m'attend? Où irai-je? Qui verrai-je? Que ferai-je? Donc, qui verrai-je? On vient un peu d'y répondre parce qu'on va certainement retrouver des proches. Ça, c'est certain. Et où irai-je? Est-ce qu'on va au paradis? Qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté?
C'est une grande question. Là aussi, j'ai pas la prétention d'avoir la réponse parce que je pense que l'au-delà est très, très vaste et en termes de connaissances, ça demande beaucoup pour répondre à une question comme celle-là. Ce que j'en comprends avec les recherches que j'ai faites à l'heure actuelle, c'est que l'au-delà, finalement, fonctionne exactement comme ici. Une de mes amies l'appelle l'eau d'ici et l'au-delà. Oui. Donc, l'eau d'ici possède les mêmes règles que l'au-delà. Si on veut comprendre ce qui se passe de l'autre côté, on a avantage à comprendre ce qui se passe ici d'un point de vue plus vaste, d'un point de vue d'âme, je dirais. Les lois de la vie s'appliquent au passage de la naissance, au passage de la mort et à l'incarnation. Ce qui se passera de l'autre côté n'est absolument pas différent. On idéalise beaucoup la vie après la mort, où on se dit que bon, tout ce qui va nous arriver, c'est bon, le paradis dès qu'on sort du corps. Ce que moi j'en comprends à l'heure actuelle, oui, le paradis existe, oui, cette étape-là, on va l'atteindre, mais il y a un processus qui n'est pas un automatisme qui vient avec la mort. Donc, c'est une transformation pour accéder à ce paradis-là et qui va s'échelonner. J'aime pas utiliser le mot temps parce que de l'autre côté, c'est pas une notion qui existe, mais qui va quand même s'échelonner sur une certaine durée pour nous permettre de libérer les attaches qu'on a à la Terre. Vous savez, les grands maîtres qui sont passés sur la Terre avant nous et qui sont encore, pour ceux qui sont encore ici, nous enseignent l'importance du moment présent, nous enseignent l'importance de se libérer des charges émotionnelles qu'on porte à l'intérieur de nous. Mais c'est exactement pour ça que ces grands maîtres-là nous l'enseignent. C'est que si on ne fait pas le travail ici, bien, on devra le faire de l'autre côté.
D'accord.
Alors, pouvoir accéder à ce paradis-là.
D'accord. Je me permets de vous couper. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Il nous reste une petite minute. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Alors, on peut vous retrouver sur Internet, je suppose. Vous avez votre site Internet où vous trouvez toutes les informations.
Oui, tout à fait. Le site, c'est www.sylviewallet.ca. Et j'irai vous voir très bientôt. Je serai en Belgique les 15, 16 et 17 mars pour y offrir des activités. Ce serait plaisant de pouvoir se rencontrer.
Bien évidemment, avec plaisir.
Oui.
Et on peut retrouver...
Alors, tous les détails sont aussi sur mon site Internet de ces activités-là. Je donnerai, entre autres, 2 conférences sur le livre « Bienvenue sur Terre ».
D'accord, très bien. On retrouvera donc en Belgique le mois prochain. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. Amy vous dit également au revoir. Elle a dû s'absenter un petit moment. Vous devinez pourquoi. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. On vous retrouve sur votre site internet et on retrouve tous vos livres, mais évidemment en vente sur internet également, sur votre site et sur Amazon et choses comme ça, bien évidemment. On vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous les auditeurs et auditrices et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.
Merci beaucoup. Au revoir.